Hey, honnêtement, là, c'est vraiment pas si pire. Je te trouve très sévère envers toi-même, Carole.
Non, non, je t'ai averti avant parce que là, j'étais comme non, ce sera pas, ce serait pas sharp ce matin.
Moi, tu m'avertis, puis là, je me suis dit, Colin, écoute, ça va être tough. Il va falloir monter la slide plus haut, tout ça, finalement. C'est... T'es à soi.
Je vais pas te faire paniquer là, que j'avais des complètement de perte de voix, là, mais ouais.
T'es à 80% correct, là. Ça va très bien, ton affaire. Je le confirme.
Je suis prête à. Je suis correct pour parler de tout ce qu'on a parlé en hockey. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Là, Karel, on va parler des vraies affaires. Là.
Allons-y.
Nos deux experts, et toi, tu en fais partie de ce panel d'experts triés sur le volet que nous avons dans le Tailgate Weekend, ont donné les Oilers en 6.
Puis je suis vraiment d'accord avec ça aussi.
Tu y vas, Oilers, en 6, toi aussi?
Moi, j'ai une tendance à dire, c'est entre 6 ou 7. Fait que je suis comme un peu, mais j'aimerais ça qu'ils gagnent à la maison, Greg. Fait qu'on dirait que je vais y aller pour ça aussi. Je trouve qu'ils sont tellement plus dominants dans les rondes qu'on a vues versus l'année dernière qu'ils sont dans une zone parfaite pour terminer ça un petit peu plus rapidement qu'on s'attend aussi. Fait que je pense que 6 ou 7. Fait que je pourrais suivre la note à dire ça pourrait être sharp qu'il gagne à la maison, que McDavid le fasse devant son monde. 6 fait du sens. Je suis très à l'aise avec ça.
OK. Et, tu sais, il y a notre auditeur, Alex Tifo, qui est peut-être le seul fan des Panthers au Québec avant cette année. Tu sais, Alex, lui, il est là depuis plusieurs années, puis il nous en parle, puis il nous casse les oreilles, puis les yeux, sa messagerie texte avec les Panthers, les maudits Panthers de la Floride. Et je dis ça avec amitié pour Alex, vous savez, je l'apprécie énormément. Mais là, ils sont champions. Et on parle du désir de l'emporter. Des Oilers d'Edmonton. Puis là, ça fait combien de fois je répète ça? Là? L'image que j'ai, c'est le vestiaire démoli des Oilers d'Edmonton après le match numéro 7. McDavid qui va pas chercher son Conn Smythe, tout le reste.
Mm-hmm.
Mais est-ce qu'on sous-estime pas un peu les Panthers là-dedans? T'sais, on se disait, ah, les Panthers, sous-estimez pas les Hurricanes, ça va être une longue série, puis blablabla. Finalement,
ouais, continue de nous prouver.
Il y a personne qui a eu de chance contre les Panthers, Karel. Personne!
Puis, ils continuent de prouver. Tu sais, à un moment donné, je pense que même les gens disaient, ça fait beaucoup de hockey en 2-3 ans. Ils se ramassent toujours malades. Tu sais, comme, c'est les saisons mortes ou les saisons off-season sont courtes pour eux. Est-ce qu'ils ont vraiment la capacité de continuer de performer de la façon qu'ils jouent? Puis, je te dirais que, ou de la façon qu'ils ont fait cette saison, les additions que ces deux équipes-là ont fait, autant les Oilers que les Panthers, font en sorte que cette équipe-là n'est pas à prendre à la légère. Ça, c'est quelque chose que, depuis le début, les Panthers, moi, ils peuvent revenir dans n'importe quel game puis ils peuvent te faire mal très rapidement. Ou dès que tu penses que tu es dans une zone un peu confortable dans le score, c'est sûr qu'ils te remettent d'en face. Fait que ça, c'est quelque chose que, moi, j'ai vu autant des Oilers que des Panthers dans les trois dernières séries qu'on a vues. Puis, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais depuis que les Oilers ont perdu les deux premières contre les Kings... Je te salue, Greg, là-dessus.
Arrêtez de me rappeler ça.
Je te salue.
Qu'est-ce que je vous ai fait? Ça a donné de la saison. Sacrément patience.
Non, mais écoute, les Oilers, ils sont quoi? 12 en 14 games, je pense, après ça, ou peu importe. Même chose avec les Panthers. Je veux dire, à chaque fois qu'ils étaient peut-être dans une situation où, ben, on veut prendre les Hurricanes si on veut, là, où ils perdaient 2 à 3-0, boum, ils reviennent dans la partie rapidement, tout le temps. Les additions qu'ils ont faites pour les Panthers ont été beaucoup plus flashy, OK? Mm. Le Seth Jones, le marchand de ce monde, viennent aider et amener une stabilité dans cet alignement-là. Puis ça, on le dit depuis le début. Puis la façon qu'ils ont performé aussi, puis qu'ils se sont adaptés rapidement au style de jeu de cette équipe-là, ils fit parfaitement, on s'entend. Mais ce qu'ils amènent en ce moment, c'est incroyable. Fait que je suis d'accord avec toi, il ne faut pas les prendre à la légère, c'est sûr. Reste que, de l'autre bord, les additions qu'ils ont faites, là, c'est des additions qui ont un peu... Ils sont moins flashy. Right? Ils sont allés chercher des joueurs plus de profondeur qui n'avaient pas le curriculum de Seth Jones ou de Marchand. Mais ces joueurs-là ont fait en sorte que les Oilers, maintenant, ont une depth ou une profondeur qui est parfaite pour eux. Oui, il y avait les deux top joueurs, puis oui, on se fiait là-dessus l'année passée. Cette année, même avec Corey Perry encore, qui joue extrêmement bien, on n'a même pas senti dans les dernières parties que Hyman ne jouait pas, Greg. Tu comprends ce que je veux dire?
Imagine si Perry avait pu rester avec les Canadiens un peu. T'sais, je sais qu'on pouvait pas le prédire.
C'est vrai.
Puis on en a parlé tout au long de la semaine. Là, Martin Leclerc qui a dit lui-même qu'il avait signé une chronique lorsqu'elle s'avait terminée à Chicago. Je sais pas si tu as pris cet extrait-là, Karel. Martin, qui est juste après toi là, dans le club du matin. Ouais. Ça fait une excellente demi-heure, d'ailleurs. mais qui dit qu'il avait signé une chronique en disant la fin de carrière triste de Corey Perry, quelque chose comme ça.
Ouais.
Finalement, elle se ramasse avec les Oilers puis regarde encore ce que ça donne. Ce gars-là est éternel. Et il mériterait une autre Coupe Stanley.
Tout le monde n'y croyait pas non plus, là, Greg, mais ce gars-là, il patine pas bien, il a pas whatever ce qu'il en est. Il est excellent à son des oreilles jusqu'au bas de la en arrière du filet. C'est le meilleur joueur à protéger la rondelle, à garder le contrôle, à feeder ce qu'il a feedé. Puis c'est lui en ce moment qui lead avec le plus de buts dans la zone la plus payante, dans la zone dangereuse en ce moment. T'sais, on sait, là, il prend toujours les rebonds ou il dévie, il fait ces choses-là, mais t'sais, quand on parle de profondeur, oui, il y a Perry, mais après ça, nomme-moi les échanges qu'ils ont fait cette année, là, mais il y en a ou qu'ils ont fait pour la saison là, à travers l'été. Le Skinner, le Frederick, le Arvidsson, Wallman aussi. Wallman m'a surpris, moi, cette année. Ouais. King Bird, tout le monde, quand il met, c'est même pas des joueurs que j'avais entendu parler d'eux par qu'est-ce qu'ils avaient fait avant comme Marchand et comme Jones. Mais ces joueurs-là sont venus vraiment placer les pions au bon endroit. Puis c'est pour ça que moi, que les Oilers, ils vont pas prendre les Panthers à la légère, mais ils sont dans une excellente position avec les bons pions aux bons endroits pour justement aller loin puis surprendre les Panthers, moi, dans le flip side.
Ouais, et il y a Simon Leblanc. Non pas l'humoriste, mais notre auditeur fidèle qui dit « Je sais pas si Greg est content que Ken Holland soit rendu à LA. » Et je me posais la question, justement, puis j'en ai parlé, je pense, avec Éric Auziel la semaine passée. Puis je pointe Jacob comme s'il était là, mais lui, il était en vacances, puis il était bien loin de ça, de cette discussion-là. Mais si les Oilers gagnent une coupe, là, comment tu vas être fâché d'avoir Ken Holland maintenant comme directeur général à Los Angeles?
Ben, je sais pas pourquoi tu serais fâché, hein.
Ben non, mais je veux dire, il a fait partie de bâtir cette équipe-là. Ouais, est-ce qu'il a été parfait? Non, mais nomme-moi un GM qui est parfait. Il y en a pas.
C'est ça, mais tu sais, il y a plein de choses aussi à comprendre. Des fois, c'est que tu amènes, mais les gens ne voient pas les moves qui sont faits qui vont amener du power à ton équipe dans 3-4 ans. Tu sais, c'est les moves directs, oui, eux sont on en parle dans le média, sont attrayants, tu veux focusser là-dessus, mais souvent, il y a des petits moves qui ont été faits qui font en sorte que tu te ramasses avec un joueur qui est exceptionnel, 2-3 ans in, puis tu l'avais même pas vu venir. Ça, ces moves-là qu'il faut qu'on reste dessus, à savoir, OK, ceux-là, ils ont aidé, comment qu'on a bâti ça, qu'est-ce qui se passe dans notre entonnoir, là? Qui s'en vient dans l'équipe? Puis je pense que des fois, les GM même quittent avant que leur gros noyau rentre,
ouais.
Puis qu'ils aident l'équipe. T'sais, c'est ça qui est dommage, parce qu'ils ne voient pas exactement tout le travail qui vient en arrière ou en arrière-plan de tout ça pour le bâtir, pour garder l'équipe comme à un certain niveau. Fait que, non, je sais pas, c'est des GM, pour moi, c'est des incompris un peu, parce qu'ils n'ont pas l'impact direct ou instantanément.
Ouais. C'est long avant, c'est long, tu fais bien de le dire, avant de connaître l'héritage complet d'un gérant général, un directeur général peut amener une organisation. Karel!
Lâche pas.
Il nous reste... Je lâche pas. Hier, on a sorti un nouveau terme, d'ailleurs. C'est un de nos auditeurs qui a dit ça. Je parlais des gérants d'estrade. Là, je les appelais. Je dis, vous êtes un gérant d'estrade. On vous donne les clés des Maple Leafs de Toronto puis des Islanders de New York parce qu'on parlait de Mathieu Darche. Et on appelait ça des directeurs gérants d'estrade maintenant. Tu veux? Wow. Ça arrive plus. Là. Le progrès ici à BPM est incroyable. Faut parler de la
LPH. Ils gèrent les gens? C'est quoi qu'ils font?
Ben écoute, ils gèrent les gens à partir des estrades, puis on leur dit, écoute, là, tu peux nous appeler pour nous dire ce que toi, t'aurais fait si t'étais un vrai directeur gérant, mais tu restes dans les estrades. Et ça, c'est très positif. Bref.
Très, très positif.
Il est temps que le show finisse.
Écoute, c'est toi qui l'as bâti. Il y a quelque chose là-dedans, par exemple. Il y a un contrôle qui va être né ou peu importe, mais c'était intéressant de voir ce que les gens feraient ou essaieraient de faire avec la situation des Maple Leafs ou même avec la situation des Islanders. Là, Darche s'en va là avec une situation où il vient de Tampa, faut pas oublier. Hein. On parle de la Floride.
Gestion
on parle
de cap, excellent. Puis déjà là, il parle comme un vétéran. Mais ça, on en reparlera cette semaine. On va trouver un moment pour se parler en quelque part, Carrel. Là, parce que dans le week-end, c'est fini. Mais en fait, je l'annonce, Carrel sera dans le retour des sportifs tout l'été avec nous autres.
Ouais.
On a tellement aimé ça collaborer ensemble qu'on s'est dit... On poursuit ça dans le retour tout l'été. Puis on parlera pas juste de hockey, parce que Carrel a une culture sportive incroyable. Donc,
j'adore tous les sports. Je suis très excitée d'en parler. Puis, ce fut un plaisir d'être là toutes les fins de semaine avec toi pour la fin de la saison ici en marche. C'était awesome. Puis, je pense que les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié, mais j'ai très, très hâte de vous suivre là, cet été. Ou de rester avec
nous autres. Nous autres aussi, mais je peux pas te laisser filer sans te poser une dernière question sur la LPHF, la victoire de Montréal. Ouais. Il y aura les listes de protection qui sortent le 3 juin. Ça, c'est dans 2 jours. Quand je regarde dehors, j'ai l'impression que c'est dans 3 mois, mais c'est dans 2 jours.
Et, exactement.
3 joueuses seront protégées par Montréal. Ça veut dire qu'il y a fort probablement 1 ou 2 joueuses d'impact qui vont quitter l'organisation. Est-ce qu'on est d'accord en disant que fort probablement Kristen O'Neill ou Aaron Ambrose vont quitter la victoire de Montréal? Parce qu'à mon avis, on va protéger, on en a déjà jasé ensemble, là, Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey et André Desdébiens.
C'est exactement, je crois, ce qui va se passer. Puis, t'en as oublié une, mais moi, je pense que Kayla Barnes, qui ont repêché l'année dernière, sera probablement la première défenseuse qui va quitter. Ooh. Parce qu'elle est tellement sharp, bonne sur le plan international.
Avant Ambrose?
Ouais. Oh, ouais. On y va pour la jeunesse, on y va aussi être sur le deuxième ou le premier duo de l'équipe USA. Moi, je pense que Barnes-y va sortir avant Aaron, puis si Aaron a sort, ou Jennifer Gardner, qui vient de Vancouver. Je dis ça comme ça. Fait qu'il y a comme, dans l'espace entre le 4 et le 8, les GM peuvent parler aux agents, aux joueuses, ces choses-là. Ils peuvent signer les joueuses, peu importe le contrat. Donc, je pense qu'on va peut-être voir des gens qui vont quitter un peu plus rapidement qu'on le pensait. Et la belle nouvelle qui pourrait arriver, c'est que si 2 joueuses quittent et qu'Aaron Ambrose est encore peut-être ou pas là, sélectionné, Daniel Savageau pourrait la protéger. Donc, dès que 2 joueuses de Montréal se font prendre pour aller ailleurs, on peut protéger 1 autre joueuse. Donc, on serait à 4 joueuses protégées, puis après ça, le reste, il devient disponible pour le repêchage d'expansion.
On suit ça cette semaine. On suit tout ça cette semaine, puis on pourra, quitte à s'en reparler à la fin de la semaine ou quelque chose comme ça. Carrel, encore une fois, merci beaucoup. C'est un plaisir de découvrir ta personnalité sportive en homme, puis on continue ça ensemble cet été.
Absolument. Bon été à tous, guys, puis je vous revois la semaine prochaine ou l'autre d'après.
Yes, merci, fais attention à toi.
Bye-bye.
Bye-bye. L'excellente Carrel Aymard. Fait une très, très mini courte pause. Au retour, on y va de nos prédictions pour la finale de la Coupe Stanley, Jacob et moi.